Riche, hein, vous vous rappelez rapidement qu'il a pris la brebis de son voisin, malgré que c'était la seule brebis, puis lui il en avait plein, pour offrir à son invité. Et David, il réagit fortement, il devient en colère contre ça, contre cet homme-là, et il dit « Cet homme-là, il mérite la mort, et il va payer quatre fois. » Et Nathan dit « Cet homme, c'est toi. » Alors, comment se peut-il que David voit les péchés de l'homme dans l'histoire et il ne voit pas son péché? Bien, on a vu ça la semaine passée, que nous souffrons tous et chacun, chers amis, vous et moi, de cet aveuglement spirituel. On est capable de voir les fautes, les péchés des autres, mais quand ça vient à moi et à toi, là, c'est comme si c'était un angle mort. Puis j'avais fait le parallèle avec la maladie du glaucome, qui est une maladie qui attaque le nerf optique, qui est sans douleur, sans symptômes, jusqu'à la toute fin où ce que la personne commence à vraiment perdre toute sa vision. Souvent, les gens venaient me voir parce que je suis un ophtalmologiste à la retraite depuis 7 mois. Et puis, souvent, ils arrivaient et c'était déjà très avancé. Et le problème avec ça, c'est que, évidemment, perdre la vue, c'est un danger, et spirituellement également, c'est dangereux. Et il y a urgence d'agir, parce que on a vu que si on reste dans cet état-là, eh bien, on peut se ramasser devant un Dieu juste et qui va nous juger. Donc, c'est de tomber sous le juste jugement de Dieu, où il jugera le monde en fonction de l'homme parfait, le modèle Jésus. Donc, on a pris conscience aussi que Jésus est venu pour ouvrir les yeux aux aveugles. On a vu ça, hein? Jésus a dit ça. « Je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles. » Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se voit. Il faut qu'on prenne conscience d'un état de péché devant Dieu, notre état de séparation d'avec Dieu pour être réconcilié. Et il y a urgence d'agir parce que Dieu dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut. » C'est aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Moi, quand j'étais jeune, je fréquentais une église avec mes parents et souvent, ce message-là était prêché. « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur parce que tu ne sais pas, demain ne t'appartient pas. » Et tu peux traverser la rue, être frappé par une voiture et c'est terminé. Ne fais pas la sourde oreille comme les Juifs ont fait. Ils se sont bouchés les oreilles depuis le temps ancien des prophètes, de sorte que Dieu a dit, « OK, vous voulez boucher vos oreilles? Eh bien, moi, je vais envoyer mon serviteur et vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez rien. Vous aurez beau voir, vous ne saisirez rien. » Et c'est pour ça que Jésus a parlé en parabole. Les gens qui étaient ouverts, ils ont interrogé le Seigneur. « Qu'est-ce que tu veux dire par cette histoire? » Les autres, ils disent « Oh, il parle en parabole, ça, il n'y a rien à comprendre. » Les leaders religieux. Donc, c'est un jugement. Maintenant, ce matin, chers amis, on va continuer dans l'histoire de David. Puis, je vous invite à tourner dans 2 Samuel, dans vos Bibles. Tantôt aussi, on va se promener dans les psaumes, mais on est dans 2 Samuel, au chapitre 12, et à partir du verset 7. Parce qu'on est dans l'histoire, David vient d'entendre la parabole de Nathan, l'histoire de Nathan. Et Nathan dit au verset 7, « Tuez cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil, de ce soleil, car tu agis en secret, et moi je ferai en présence de tout Israël à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps privilégié, comme disait notre frère, d'être en ta présence ce matin. On veut, Seigneur, que ta présence soit palpable parmi nous. On a soif de Dieu, Seigneur. On a soif de toi. On veut te rencontrer. On veut apprendre de toi, Seigneur. Donne-nous par ton esprit sagesse et révélation pour te connaître. Père, merci pour ta parole. Que ta parole, on puisse l'accueillir, qu'elle puisse tomber dans un sol fertile et produire du fruit pour ton nom, pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, ce matin, ce qu'on va voir, chers amis, c'est ici une repentance. Une repentance authentique et centrée sur Dieu, dans sa perspective et dans son but. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la repentance, on prend la perspective de Dieu sur ce qu'on a fait, et la repentance, ça a le but d'aller vers Dieu. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Il y a 5 R de la repentance, mais on va avoir le temps d'en voir 2 ou 3 ce matin. Le premier, c'est reconnaître son péché. Reconnaître où on a le choix de reconnaître ou on a le choix de faire d'autres choses. C'est David, on se met dans la scène où Nathan vient, il raconte l'histoire, puis David, il a le choix là. Il a le choix de faire plusieurs choses. Il a le choix de reconnaître son péché. Et c'est ce qu'il fait. Il dit simplement à David, « J'ai péché contre l'Éternel. » On l'imagine assis là sur son trône, la tête baissée, laissant tomber doucement ses paroles sur un ton triste. David reconnaît son péché. Il ne cherche pas de moyens pour s'esquiver ou pour en assumer la responsabilité. Mais les êtres humains, on est experts à s'esquiver, et il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. Lorsqu'on est confronté, lorsque nos yeux s'ouvrent, lorsque l'aveuglement spirituel temporairement est suspendu puis on se voit, bien, il y a plusieurs réactions possibles. La première, c'est renier, mentir. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je ne sais pas qui l'a fait, mais ce n'est pas moi. Voir si je ferais une chose semblable. Puis on renie ou on ment pour se cacher. Et savez-vous quoi? On est même capable de se mentir à nous autres mêmes. On est tellement habile à mentir, là, qu'à force de répéter la même chose, on peut se convaincre que ce qu'on a raconté comme mensonge, c'est vrai. Renier, mentir. Ensuite, il y a l'autre option, si vous n'aimez pas cette option-là. La situation, c'est de rationaliser. La situation était telle que j'ai agi en fonction des circonstances. Voilà ce qui est arrivé. J'avais pas le choix. Il fallait que ça se passe de même. C'est comme ça. La séquence des événements est de même. Puis j'ai agi comme ça en fonction des circonstances. Puis c'est logique. Tout le monde aurait fait la même chose. Rationaliser. Bien, si vous n'êtes pas trop pour cette option-là, inquiétez-vous pas, il y a une autre option. Minimiser. Ouais, mais dans le fond, c'est pas si grave que ça, ce que j'ai fait, voyons. Oui, c'est vrai que j'ai fait ça, mais je voulais pas faire mal à personne. Puis on minimise. Minimise. C'est le fun, hein? Il y a plusieurs options. Ensuite, encore, il y a relativiser. Bien, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. On ne peut pas me blâmer pour ça, c'est normal. On relativise, on normalise la chose. Ça se fait beaucoup dans notre société d'aujourd'hui. Relativiser ou normaliser. Ensuite, si vous n'aimez pas ça, bien, vous pouvez encore choisir l'option numéro 5. C'est rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre. C'est pas de ma faute. C'est elle qui m'a dit de le faire, ou c'est lui qui a fait ça, puis c'est pas moi. C'est lui. Ça, ça remonte très, c'est très, très vieux comme option. Ouais, Adam et Ève. Ça remonte aux origines de l'histoire. Il y a une autre option encore. Se justifier. J'ai le droit, moi, parce que, là, vous remplissez le vide. J'ai le droit parce que. Dans le fond, peut-être qu'on ne dirait pas de cette façon-là, mais si on pouvait lire dans mes pensées, c'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai le droit. Les autres n'ont pas le droit, mais moi, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que je suis différent des autres. Je suis différent des autres. David, il aurait pu... Ben en fait, c'est ce qu'il a fait. Hein? Parce qu'il était le roi, il avait le droit. Il s'est donné le droit de faire ce qu'il a fait. Hein? Ou encore, moi j'ai le droit parce que j'ai besoin de ça pour être heureux. J'ai besoin de ça. Ou c'est différent pour moi parce que moi, j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, ou je suis handicapé, et puis on se permet des choses parce que on est différent des autres. Donc, la loi s'applique aux autres, mais pas à nous. Lorsque j'étais au primaire, je m'ennuyais beaucoup dans les cours, et puis je parlais beaucoup dans les classes, je dérangeais beaucoup. Les bulletins qui arrivaient chez nous, là, c'était toujours le même commentaire. « Brian va bien à l'école, mais il parle trop. Il dérange trop. » Puis, il y avait, je ne me rappelle pas quel professeur, mais une couple de fois, elle me dit, « Brian, voudrais-tu nous expliquer à la classe pourquoi tu es différent d'eux? Pourquoi toi, tu es différent? Pourquoi les règles, ça ne s'applique pas à toi? » Et ça me choquait là, quand elle disait ça. Ça me choquait parce qu'elle lisait dans mon jeu. Là. Elle avait lu dans mes cartes. Parce que moi, dans ma tête, là, ma petite tête d'enfant, c'était trop ennuyant, cette affaire-là, ce qu'il nous enseignait. Puis moi, je comprenais, là, c'était facile. Fait que moi, je me donnais le droit de faire ce que je voulais. Mais là, elle mettait le doigt sur mon option. Là. Moi, mon option, c'était ça, se justifier. Et que ça me choquait. Et puis finalement, vous avez encore une autre option, c'est de se positionner en victime. Et dire, c'est pas de ma faute, c'est elle qui est venue vers moi. Que voulais-tu que je fasse? Je suis pas faite de bois quand même. J'ai pas demandé pour ça. Elle est arrivée tout nue dans l'appartement. Je vous donne un exemple. Là. Mais David, il aurait pu dire ça. Je suis sorti, hein, comme j'ai dit l'autre fois. Là. Je suis sorti sur le toit, là, et je n'ai pas demandé là, une femme belle qui est tout nue là, en train de se baigner sur le toit. C'est pas moi qui ai demandé ça. Puis là, on se positionne en victime, puis on s'esquive. On s'esquive. Je suis victime des circonstances. J'ai pas demandé ça. Mais David ne fait aucune de ces choses-là. Tantôt, quand je lisais que Nathan explique à David qu'est-ce que Dieu lui a dit de lui dire, là, je pouvais m'imaginer que David aurait pu se mettre en colère. Il aurait pu se mettre en colère contre Nathan, attaquer le messager au lieu de recevoir le message. Ça, c'est une autre façon de réagir. Mais David, au verset 13, dit, « J'ai péché contre l'Éternel. » David reconnaît son péché, il essaye pas de s'esquiver. Puis là, je vais vous demander de tourner dans les psaumes, chapitre, psaume 51. Psaume 51, c'est le psaume que David a écrit à la suite de cette rencontre avec Nathan le prophète. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début de la série, j'ai dit... Avec David, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que on a les psaumes que David a écrits, puis les psaumes, c'est comme une fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Alors, on a un privilège extraordinaire. Et puis, ici encore, je suis reconnaissant que Dieu a permis que David écrive le psaume 51 pour voir qu'est-ce qui se passe dans son cœur. C'est encore une fenêtre sur l'âme de David. Psaume 51, 1 à 5. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, après qu'il ait couché avec Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. » Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. David reconnaît ses péchés, il ne prend pas aucune des options qu'on a mentionnées, il avoue. Et il reconnaît également que c'est d'abord envers Dieu. Regardez au verset 6. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. » Est-ce que David avait péché uniquement contre Dieu? Non, il avait péché contre Bathsheba, il avait péché contre Uri, il avait péché contre toute la famille, il avait péché contre son armée, il avait péché contre la nation, parce qu'il avait donné un très mauvais exemple à sa nation. Il a abdiqué son rôle de leader spirituel de la nation et donné un exemple à ne pas suivre. Mais c'est une figure de style, je crois, ici, lorsque David, j'ai péché contre toi seul, c'est une hyperbole, c'est une exagération pour dire que par rapport aux autres, là, c'est surtout envers Dieu que David a péché. C'est au plus haut point et non de façon exclusive. Sa repentance est centrée sur Dieu, comme j'ai dit dans la phrase sommaire. Sa repentance est centrée sur Dieu. Et ce n'est pas une repentance, comment je dirais, bidon. C'est une repentance authentique à laquelle on a affaire ici, les amis. Pardon? De cœur, voilà, qui est centrée sur Dieu. La réelle repentance, là, c'est lorsque tu réalises que ton offense, c'est envers le Dieu trois fois saint de l'univers. Quand on parle aux gens et qu'on parle du péché, les gens vont penser tout de suite aux gens qu'ils ont offensés. Mais en réalité, là, Dieu est toujours concerné et Dieu est toujours le premier concerné. Parce que c'est Dieu qui a établi les règles. C'est Dieu qui a dit, voici comment moi, ma création, je veux qu'elle fonctionne. Voici comment moi, mes créatures, les êtres humains que moi j'ai créés, je veux que vous agissiez. Donc, quand je n'agis pas comme ça, c'est surtout et premièrement envers Dieu. Et ça, c'est le signe d'une repentance authentique. Quand la personne prend conscience, regarde, oui, j'ai offensé tout le monde, là, mais premièrement, là, je vais régler mon cas avec Dieu, parce que c'est lui que j'ai offensé en premier. Ensuite, on voit que ce n'est pas une repentance qui est motivée par le désir d'éviter les conséquences. Ça, ce n'est pas une repentance authentique. On l'a vu, plusieurs d'entre nous, des gens, faire quelque chose de mauvais, puis dire, OK, j'ai pas fait la bonne chose, je vais régler ça, parce qu'ils ont peur des conséquences. Ce n'est pas une repentance authentique envers Dieu, c'est une peur simplement des conséquences. On a une belle illustration avec ça, avec Pharaon, en Égypte. Lorsque Moïse arrive, il dit, Pharaon, Dieu dit, laisse aller mon peuple. Il dit, non, il n'en est pas question. Fait que là, Dieu envoie une plaie, une catastrophe. Pharaon dit, OK, il appelle Moïse, il dit, viens, prie pour moi alors que ça arrête, puis je vais vous laisser aller. Puis, fait que, qu'est-ce qui se passe? Moïse prie, puis Pharaon, il recommence. Puis, à la toute quatrième ou cinquième, je ne me rappelle plus, là, il dit même, j'ai péché contre l'Éternel. Wow! Tu dis, Pharaon, hey, il va se repentir, il va devenir chrétien. Ils y prient, puis, il faut que ça arrête, ça là. Mais tu vois que tout de suite, il recommence encore. Puis Moïse, il dit, OK, je vais prier, mais il recommence pas. Puis, on voit que finalement, c'est juste motivé par la peur des conséquences. Ce n'est pas une repentance authentique. Une repentance authentique, c'est d'accepter aussi le juste jugement que cela mérite. David se met d'accord avec Dieu sur son péché et il déclare que Dieu est juste dans ce qu'il dit par rapport à son jugement. Regardez au verset 6. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Wow! Ça, les amis, là, c'est le signe d'une repentance sincère. Il accepte le jugement de Dieu contre son péché. Quelqu'un qui dit « Ah ben oui, je regrette, j'aurais pas dû faire ça », mais qui commence à négocier là, pour ne pas avoir à vivre les conséquences ou de dire « Ah ouais, mais comme Caïn, hein, quand Dieu l'a chassé du jardin, il dit « Ouais, il dit, c'est pas mal rough ton affaire, Dieu, là, qu'est-ce que tu me dis, là, qu'est-ce que tu me donnes comme punition, là? » Qu'est-ce que ça révèle sur son cœur? Ça révèle qu'il n'acceptait pas finalement, que son péché était grave et que ça méritait le jugement de Dieu. Ça mérite le juste jugement de Dieu. Les gens autour de nous, souvent, on entend ça, ben oui, si on leur demande est-ce qu'on est pécheur, oh oui, tout le monde est pécheur, voyons, personne de parfait, là. Hein? Est-ce que ton péché mérite d'être en l'enfer pour l'éternité? Ah non, mais non! Ça ne mérite pas ça, voyons. Je ne suis pas si méchant que ça. Hein? Tout le monde est comme ça. Tout le monde pêche, voyons. Mais quand le Saint-Esprit touche ton cœur, t'ouvre les yeux sur ta vie, sur tes péchés, tu commences à voir les choses de la perspective de Dieu. Et de voir que finalement, tu as vécu ta vie tout en disant à Dieu, « Laisse-moi tranquille, toi. Laisse-moi vivre ma vie. » C'est de bafouer l'amour de Dieu. C'est de complètement le rejeter, de ne pas l'honorer comme il en est digne. Et la Bible dit que tout péché est un affront à Dieu, est une rébellion contre Dieu et mérite d'être chassé de la face de Dieu pour l'éternité, d'aller dans un endroit que la Bible appelle l'étang de feu, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ça n'a pas été préparé au départ pour les êtres humains. Ça a été préparé pour le diable et ses anges. Alors, David ne fait pas d'excuses, il fait juste qu'à admettre que le péché sort de son propre intérieur. Regardez au verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ce que David est en train de dire ici, là, c'est que le péché, c'est pas venu à lui de l'extérieur vers l'intérieur, là. Il est en train d'avouer là, que c'est sorti de lui parce que, dans le fond, il reconnaît qu'il est pécheur. Et ça aussi, c'est un signe de repentance authentique, les amis. C'est pas juste « mais je suis une bonne personne, mais j'ai fait une erreur. Regarde, tout le monde fait des erreurs. » Non. La Bible dit « tu pèches parce que tu es pécheur. » C'est pas le fait que tu as péché qui te fait pécheur. C'est que tu es pécheur que tu fais des péchés. C'est ça que David dit ici. La Bible dit que lorsque Adam a péché, toute la race a reçu cette nature déchue, cette nature déformée, tordue. On a reçu ça en héritage. C'est dans nos gènes. Tu n'as pas besoin de montrer un enfant à mentir. Il fait naturellement. Tu n'as pas besoin de montrer à un enfant d'être méchant avec ses frères, ses sœurs. Il va être méchant. C'est naturel. Donc, David dit, il essaie pas de s'excuser en disant, « Ben là, tu sais, Dieu, là, dans le fond, j'étais un bon bougre. Tu sais, j'ai fait ça, oui, mais c'est comme extérieur à moi. » Non, David dit, « Je suis né dans le péché, je suis conçu dans l'iniquité. Ça vient de moi, ça vient de l'intérieur. » David se range donc à la vie de Dieu dans tous ses domaines. Et c'est ça le sens du mot « confesser ». Le mot « confesser », c'est « con », qui veut dire, pas niaiseux, mais « avec » dans le latin. Et « fesser », ça veut dire, comme « professer », ça veut dire « parler ». OK? « Confesser », c'est « dire pareil », »,« dire avec ». Donc, David, le signe d'une repentance authentique, c'est qu'on dit la même chose que Dieu. On se met d'accord. On s'enligne avec ce que Dieu dit, comment Dieu voit les choses et qu'est-ce que Dieu dit de ça. J'ai déjà entendu des gens dire, « Ouais, je sais que Dieu veut ça, là, mais... Mais... Quoi? Mais... Mais moi, je ne peux pas parce que... » David, il se met d'accord avec Dieu. Il se range encore à la vie de Dieu au verset 8. Regardez. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Il dit que Dieu, tu désires voir la vérité à l'intérieur, l'intégrité, pas juste dans mes actions, mais à l'intérieur de moi. Je reconnais que au départ, là, c'est à l'intérieur de moi que ça a mal été, là. Tu veux, oui, je suis né dans le péché, c'est de ma nature, mais toi, tu veux qu'on vive dans la lumière, tu veux qu'on vive dans l'intégrité, tu veux qu'on vive dans la vérité. Et je savais ça, et je sais ça, et je l'accepte ça. Donc, il reconnaît qu'il a péché. Il dit, tu veux la sagesse, fais donc pénétrer la sagesse. La sagesse dans la Bible, ça commence avec... la crainte de l'Éternel qui fait qu'on se détourne du mal. Hein? La crainte de l'Éternel, c'est de se détourner du mal. Fait qu'il dit, remets ça dans mon cœur, Seigneur. Mets la sagesse, fais pénétrer la sagesse, la révérence de toi, le désir de ne pas t'offenser. David exprime ici ce que toute la Bible expose concernant la personne de Dieu, qu'il voit jusqu'au fond de ton cœur, que tu es comme un livre ouvert devant lui. La Bible dit ceci, « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Hébreux 4, 13. On regardait nos petits-enfants la semaine passée, puis je pense que c'est la première journée. Le petit gars de 3 ans, je trouvais que ça sentait un peu le caca, là. Puis, j'ai dit, « Tu fais de caca? » »« Non. » Puis un peu plus tard, j'ai dit, « Lorraine, sens-tu que ça sent le caca? » »« Oui. » »« As-tu fait de caca? » Je ne dirais pas son nom. « Non. » Là, plus tard dans la soirée, on monte à l'étage, on voit dans la salle de bain, il y a du caca partout. il avait fait de caca sur le bol. Ça, c'est bon. Mais, tu sais, il y avait eu des gars. Puis, il avait essayé d'essuyer ça. Puis, il y en avait encore dans ses culottes pour petit. Mais, il cachait. Vous voyez comment est-ce qu'on est? La Bible dit ceci. « Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc, reconnaître. Ça, c'est le premier R, c'est reconnaître. Et ici, là, les amis, là, OK? David a chuté de façon lamentable, de façon scandaleuse. Mais ici, d'un autre côté, on a une repentance, c'est un modèle de repentance. La première chose, c'est reconnaître. Reconnaître son péché, pas s'esquiver, se mettre d'accord avec Dieu. La repentance, la vraie, authentique est orienté vers Dieu dans sa perspective. Deuxième R, c'est rechercher et recevoir le pardon. Donc, David demande ici, il dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, efface mes transgressions, au verset 3, lave-moi complètement de mon péché, purifie-moi de mon péché. » Il demande à Dieu le pardon. Sur quelle base Dieu peut demander à Dieu le pardon? C'est quand même audacieux après tout ce qu'il a fait, là. Vous ne trouvez pas? Est-ce qu'il mérite d'être pardonné, David? Hein? Non. Non, il ne mérite pas d'être pardonné. Sur quelle base Dieu va accorder son pardon? Souvent, j'entends les gens dire, « Ah, ben Dieu, c'est un bon Dieu, là, il va me pardonner. » OK? Mais attends, de quoi es-tu coupable? Tu sais, je sais pas, là... Dans le fond, j'étais un bon gars. J'ai fait des erreurs comme tout le monde, là, mais... OK, fait que c'est minimisé. Quelle est la sentence qui pèse sur toi? Sentence, c'est pas de sentence. Dieu, il est bon, il n'envoie personne en enfer. Deuxième prise. Puis troisième prise, pourquoi Dieu te pardonnerait-il? Sur quel bord? Je suis une bonne personne, dans le fond. Dieu. Troisième prise. Et out. Sur quelle base? Les gens se basent sur eux pour demander à Dieu de les pardonner. La Bible dit que si tu brises un seul des commandements de Dieu, tu es coupable envers toute la loi de Dieu. C'est comme un objet d'art, mettons un vase antique là, chinois de 3000 ans, là, puis tu l'échappes et il brise un petit peu. Le vase est brisé. Là. Le vase est brisé. Il ne vaut plus rien. La Bible dit que le salaire, le résultat du péché, c'est la mort éternelle, exilé loin de la présence de Dieu pour toujours. C'est ça la sentence. La pénalité est la même pour tous ceux qui brisent la loi de Dieu. La Bible dit que Dieu est un juste juge qui ne peut pas laisser passer le mal. Puis d'ailleurs, on ne peut pas avoir son gâteau puis le manger aussi, là. Dire, Dieu, c'est un bon Dieu, puis il va me pardonner, puis il n'y a pas de problème, il va laisser passer ça. Puis de l'autre côté, manger son gâteau dans le sens que, tu sais, j'ai de la misère à croire dans un Dieu parce qu'il y a tant d'injustices dans le monde. Là. Comment ça se fait, là? Comment ça se fait qu'il y a tant d'injustices dans le monde? Tu ne peux pas avoir ton gâteau puis le manger aussi, là. Vous me suivez? Dire que Dieu est... Et bon, c'est un bon Dieu, quand ça s'agit de moi, mais Dieu, je comprends pas, il laisse passer toute l'injustice dans le monde. La Bible dit que Dieu laisse passer l'injustice actuellement, oui. Parce que sa justice, il va la exercer au jour du jugement. Il y a un jour qui s'en vient. La Bible dit que Dieu ne peut pas laisser passer le mal, mais... S'il ne laisse pas passer le mal chez le voisin, est-ce qu'il va laisser passer le mal chez toi? Et le cœur humain réclame la justice, pour les autres, bien sûr, hein? Pas pour moi. Donc, l'être humain n'est aucunement positionné pour demander le pardon basé sur sa bonté parce qu'il n'en a pas face à Dieu. Ça ne veut pas dire, chers amis, qu'on n'a pas de bonté du tout. Jésus dit aux gens, « Si vous, là, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, là, combien plus le Père vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Hein? » Qui va donner un serpent si son fils demande un pain? Hein? Fait que l'être humain est capable de faire des bonnes choses du point de vue humain. Pourquoi? Parce qu'on était créé dans l'image de Dieu. Mais face à Dieu, face à Jésus-Christ, on n'a pas de bonté. Sur quel nous baser pour demander pardon? On est en banqueroute face à Dieu. On est insolvable face à Dieu. L'être humain Sa bonté est insuffisante pour payer la moindre petite prix de contravention parce que le prix que tu devrais payer, c'est ta vie. Es-tu capable de payer ça? Non. Voici ce que le psaume 49 dit. « Ils ont confiance en leurs biens, se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » La Bible dit aussi que personne qui peut racheter l'âme de son prochain. Personne. Personne. Donc, sur quelle base? Sur quelle base David demande à Dieu de pardonner? C'est impardonnable ce qu'il a fait. Sur la base de ce qui a été un bon petit gars avant? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que c'est une bonne personne? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. Verset 3, pardon. Ça dépend des versions. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » J'aimerais vous lire dans la Bible du Sommeur, psaume 51. Il dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, si toi qui es compatissant, lave mon péché. » Il se jette, David, sur la miséricorde de Dieu. Sur la miséricorde et la bonté de Dieu, pas sur sa bonté, mais sur la bonté de Dieu, sur son amour, sa compassion. Il ne s'appuie pas sur lui, mais sur qui est Dieu. Il ne tente pas de justifier sa demande sur la base qu'il a été bon et fidèle jusque-là. Il n'a d'autre recours que de se jeter sur la miséricorde de son Dieu. Continuons notre lecture. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ici, David fait référence à une plante qui s'appelle l'hysope. L'hysope, dans l'Ancien Testament, c'était une tige de plante. Et puis, il prenait cette plante-là, la tige de cette plante-là, dans les rites de purification. Il trempait le bout de la tige puis dans le sang de la victime sacrifiée et il aspergeait le sang sur ce qui devait être purifié. Donc, par exemple, à la Pâque, hein, Dieu a demandé, mettez le sang de la victime sur le linteau et les deux battants de la porte, les deux montants de la porte. Quelqu'un qui était lépreux, par exemple, s'il revenait, il fallait qu'il soit purifié comme ça. Donc, c'est une image pour parler de la purification. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a d'abord eu un sacrifice. Le sang avait été versé. Et le sang, maintenant, est appliqué sur moi. Donc, David reconnaît ici que ça prend un sacrifice. Que Dieu veut, à cause de sa bonté, sa miséricorde, il veut lui pardonner, mais sur quelle base? Sur la base du paiement qui a été fait par un sacrifice, par une victime. Dans le cas ici, c'est un animal. Mais on sait que dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est lui. Il faut que tu reconnaisses qu'il est mort pour toi personnellement à la croix et que tu lui dis, Jésus, j'accepte ton sacrifice pour moi. Père, pardonne-moi sur la base de Jésus, son sacrifice. Asperge-moi de son sang, purifie-moi. Donc, c'est sur la base d'un sacrifice, sur la base d'un paiement qui a été fait et non pas sur ta bonté à toi. Regardez ce qu'il dit ici, David. Ça me frappe. Lave-moi, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Wow! David, plus blanc que la neige. Après ce que tu as fait, David, plus blanc que la neige. C'est pas, je serai moins sale. Je serai un ton ou deux plus clair, beige, mettons, là. Ouais, beige, ça serait correct pour moi, là. Ça serait une grosse amélioration, et beige. Peut-être que tu veux rester beige parce que ça te permettrait de continuer à pécher un peu, là. Non, il dit, lave-moi, purifie-moi, je serai blanc, plus blanc que neige. Wow! Qu'est-ce qu'il demande là? Est-ce possible? Et il dit pas, j'espère que je vais être plus blanc que neige. Il dit, lave-moi et je serai plus blanc que neige. Voyez-vous la foi de David ici, là? La foi. C'est soit la foi ou la prétention, hein? Mais c'est la foi parce que Dieu veut le laver. Dieu veut le rendre plus blanc que neige. C'est pas David qui a inventé ça, là. David, il s'approprie quelque chose que Dieu a promis. Dieu a promis ça. Dieu, c'est dans sa nature de vouloir. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. David, c'est-à-dire, ce n'est pas la prétention parce qu'il a compris le concept du substitut que Dieu a institué dès le début avec Adam et Ève. Il dit, relave-moi et je serai pur, purifie-moi, je serai blanc comme la neige. C'est seulement sur cette base-là que Dieu peut accorder son pardon. Et David s'appuie sur ça. Troisièmement, recevoir le pardon. Donc souvent, quand on pèche contre Dieu, ayant premièrement été à la croix pour recevoir le pardon de nos péchés, mais on peut quand même pécher parce qu'on reste avec cette nature-là. Et il faut retourner demander pardon à Dieu, non pas pour nous sauver, mais pour nous rétablir dans la relation avec Dieu. Mais ce qui arrive, si vous êtes comme moi, les amis, quand je pêche, ben j'ai honte. Et la honte, qu'est-ce que ça fait? Ça nous isole, ça nous éloigne de Dieu. Je m'en veux tellement. Je demande pardon. Mais si vous êtes comme moi, souvent, je vais redemander pardon 3 ou 4 fois dans la journée et encore le lendemain. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche là-dedans? Est-ce que Dieu ne veut pas me pardonner? Non, au fond, c'est que, dans le fond, là, c'est que j'accepte pas d'avoir commis cette faute-là. Je m'en veux. C'est une bêtise. J'aurais pas dû faire ça. Puis je m'en veux. Au fond, là, ça révèle que j'accepte pas d'avoir péché. Au fond, là, ça révèle un orgueil. Je suis centré sur moi, là. Et puis, ce qui est bizarre, là, c'est que je crois qu'en agissant de cette façon-là, j'honore Dieu parce que je me dis, ben, j'aurais jamais dû faire ça. Fait que là, je me flagelle, je me corrige pour lui montrer, puis pour montrer à moi-même que, dans le fond, je suis un bon chrétien. Mais l'aspect le plus triste de cette dynamique-là, c'est que je m'empêche de me tourner vers Dieu puis de réellement recevoir son pardon. C'est du moralisme. C'est le moralisme chrétien. Donc, je cherche à expier ma faute. Et je ne tourne pas vraiment vers Dieu pour recevoir son pardon. Finalement, c'est centré sur qui? C'est centré sur moi. Oui, c'est égocentrique. Ça n'honore absolument pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, il veut me pardonner. Il veut que je revienne à lui. Il accepte que j'ai péché. Il a déjà pourvu à la solution. Il a déjà pourvu. Et la Bible nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Fidèle, fidèle à sa parole parce que c'est ce qu'il a promis de faire. Et juste, pourquoi il est juste? Parce qu'il est juste en me pardonnant parce que Jésus a déjà payé pour ce que j'ai fait à la croix. Donc, si je me tourne vers Dieu, je demande pardon. Dieu est fidèle à sa parole, il est juste. c'est juste pour lui de me pécher, de me pardonner, pardon, de mes péchés, parce que Jésus a déjà payé, il ne fera pas payer deux personnes pour la même faute. Et David dit quelque chose au verset 18, regardez au verset 18, quelque chose de vraiment spécial. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Quoi? Tu ne viens pas justement de dire que Dieu il nous pardonne sur la base d'un sacrifice, Brian? Ben oui. Mais ce que David dit ici, c'est que dans la culture du temps et dans la nature humaine aussi, les gens, quand ils pêchent contre Dieu, essaient d'amadouer Dieu en faisant des sacrifices pour compenser ce qu'ils ont fait. C'est de cet sacrifice-là qu'il parle, David. Et il dit, « Dieu, tu veux voir un cœur brisé, un esprit humilié. » Apparemment que dans les cultures de l'époque, lorsqu'on est un individu expérimentait des revers ou des malheurs, cela était interprété comme étant la colère des dieux. Alors, il fallait faire quelque chose pour apaiser la colère de ce dieu-là ou de ces dieux-là, puis les amadouer, autrement dit. Il n'était pas question de vraiment être pardonné. Il s'agissait simplement de faire quelque chose qui plaisait au Dieu pour l'apaiser. Puis c'est ça que David dit ici. Il exprime, « Seigneur, tu sais, j'aurais pu faire plein d'holocaustes, plein de sacrifices, mais qu'est-ce que tu veux? » Tu regardes au cœur. Verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc oui, reconnaître son péché, rechercher, mais recevoir aussi le pardon de Dieu. Recevoir le pardon de Dieu, qu'il a été rendu possible par le sacrifice de Jésus à la croix. Dieu n'est pas bonasse, mais il est bon. C'est encore mieux. Il est bon et il est juste. Fait que sa bonté, elle est parfaite, parce que sa justice est parfaite. Quelqu'un qui est bonasse, c'est juste, c'est bon, ben, ça me tente, là, c'est basé sur rien. Mais la bonté de Dieu est basée sur sa justice. Donc, on peut s'y fier. Il veut et peut te pardonner, puisqu'il a trouvé un paiement, un sacrifice pour toi. Et cela ne minimise aucunement le péché. Tu ne peux pas dire, « Ah, c'est pas grave, tu peux continuer. » Non, parce que à la croix, on voit à la fois la plus grande preuve de l'amour de Dieu, mais la justice de Dieu également. Parce que c'est là que Jésus est mort pour tes péchés et les miens. Donc, si tu reconnais ton état devant Dieu, tu recherches son pardon, tu lui demandes, je t'encourage à dire, merci Père, je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon. Dieu veut le donner, le crois-tu? On va s'arrêter là pour ce matin. J'aimerais prendre un temps, vous laisser prier. Qu'est-ce que vous aurez à exprimer à Dieu ce matin? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ce matin? Est-ce que vous aimeriez confesser quelque chose? Est-ce que vous aimeriez le louer, l'adorer? Est-ce que vous aimeriez vous engager? Est-ce que vous aimeriez revenir? David est dans le processus de revenir. La semaine prochaine, on va continuer. On va voir comment David revient à Dieu. Reviens. Prenons quelques minutes pour ça avant de terminer.